Exposition biblique, chapitre 8. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. La liberté de l'amour qui surpasse la connaissance. La connaissance rend-elle arrogant et l'amour édifie-t-il la vertu? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. La Bible enseigne clairement le principe selon lequel la connaissance peut rendre arrogant. Mais l'amour édifie la vertu. Cette parole a été prononcée par l'apôtre Paul alors qu'il expliquait le problème de l'église de Corinthe. Et elle est rapportée dans 1er épître aux Corinthiens chapitre 8, verset 1 ainsi « La connaissance enfle, mais la charité édifie ». À cette époque, il y avait dans l'église de Corinthe des personnes qui possédaient beaucoup de connaissances sur la foi. Ils avaient la connaissance de la foi selon laquelle une idole n'est rien et, sur la base de cette connaissance, ils soutenaient que certaines actions étaient libres. Cependant, Paul leur a souligné un problème important. C'est que la connaissance en elle-même peut être juste. Mais si elle n'est pas accompagnée d'un cœur qui aime son prochain, elle peut rendre une personne arrogante. Parce que la connaissance donne à une personne la conviction qu'elle a raison, elle peut parfois conduire à une attitude qui ne prend pas les autres en considération. Lorsqu'une personne commence à se vanter de ses connaissances, il est facile qu'un cœur s'élève pour juger ou ignorer les autres, en pensant qu'elle en sait plus. C'est pourquoi Paul a dit qu'une communauté ne peut pas être édifiée par la seule connaissance. D'autre part, l'amour possède la puissance de la foi pour édifier une communauté. L'amour pousse à penser à la foi et à l'état des autres et permet de renoncer à ses propres droits ou à sa propre liberté. Lorsqu'il y a de l'amour, une personne en vient à penser d'abord au bénéfice des autres, plutôt que de se vanter de ses connaissances ou de ses droits. Par conséquent, Paul a déclaré que c'est l'élément le plus important pour édifier une communauté. Ce principe de foi s'applique à l'ensemble de la vie de foi. Bien connaître la parole de Dieu et être riche en connaissances religieuses est important en soi. Cependant, si cette connaissance ne partage pas le même but que la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la foi peut progressivement se transformer en une apparence égocentrique. À l'inverse, un croyant qui a la foi, croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, rend les gens humbles et avance dans la direction de l'édification de la communauté. Par conséquent, la Bible ne renie pas la connaissance elle-même, mais enseigne le fait que la connaissance doit être accompagnée d'amour. La connaissance permet de comprendre la vérité de Dieu, mais l'amour montre comment on doit vivre par la foi dans la parole évangélique de cette vérité. En fin de compte, le principe dont parle la Bible est clair. La connaissance seule ne peut pas rendre une personne parfaite, mais lorsqu'elle est accompagnée de la foi qui croit en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, la connaissance est utilisée correctement. Ainsi, dans la vie de foi, cela permet à la communauté de foi d'être édifiée afin que la connaissance ne dérive pas vers l'arrogance. Paul commence par les mots suivants. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance dont il était question ici signifie l'exactitude concernant les relations factuelles. Beaucoup parmi les croyants de Corinthe savaient de bien qu'une idole n'est rien dans le monde et que la nourriture offerte aux idoles n'est tout simplement que de la nourriture. Cette connaissance en elle-même n'est pas fausse. Cependant, Paul soulève une question plus profonde. Il s'agit de savoir si cette connaissance est utilisée conformément au but de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un système de connaissances conçu pour prouver ce qui est bien et ce qui est mal, mais la puissance de l'évangile du salut qui donne le salut et une nouvelle vie aux croyants et qui édifie une personne de foi. Si l'on suit par la foi l'évangile de l'eau et de l'esprit dont témoigne la parole de la vérité de Dieu, ne deviendrait-on pas une personne qui mène une vie de foi qui plaît à Dieu et qui rencontre ensuite le Seigneur? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 2 à 3. Selon l'enseignement de la Bible, une personne qui vit en suivant la parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans la vérité de Dieu mène une vie de foi qui plaît à Dieu et finit par rencontrer le Seigneur. C'est parce que la vie de foi ne se termine pas simplement par une confession momentanée, mais qu'elle est un voyage de vie vécu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette parole signifie que le chemin pour aller à Dieu se trouve dans la vérité de la parole évangélique de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ, et que la vie menée en suivant cette parole de vérité est exactement le chemin qui mène vers Dieu. Par conséquent, la vie d'un croyant ne signifie pas simplement répéter des actes religieux, mais désigne la direction d'une vie vécue dans la vérité. De plus, la Bible met l'accent sur une vie qui plaît à Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10 dit « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Un croyant doit vivre en pensant à ce qui devient une joie pour Dieu dans sa propre vie. Une telle vie de foi commence par un cœur dirigé vers Dieu et se manifeste par une attitude cherchant à mener une vie de foi pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit en suivant la parole de Dieu. Et la Bible parle de l'espérance de rencontrer le Seigneur de la seconde venue au dernier jour. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Cela ne signifie pas qu'une personne devient parfaite par ses propres forces, mais que cela doit être une direction de vie par la foi, en croyant en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu. Il y a plusieurs caractéristiques qui apparaissent chez une personne qui vit dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Elle essaie de penser et d'agir sur la base de la parole de Dieu et de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et essaie de considérer et de suivre le but de la prédication de l'évangile de Dieu comme étant plus important que ses propres désirs. De plus, elle essaie de vivre en suivant la volonté de Dieu dans la vie de foi. Une telle vie de foi ne se résume pas à de simples actions extérieures, mais devient une vie où le centre du cœur est dirigé vers Dieu. En fin de compte, le chemin de la foi dont parle la Bible est clair. Une personne qui vit en suivant le chemin de la parole évangélique, de l'eau et de l'esprit dans la vérité de Dieu, en vient à mener une vie de foi qui plaît à Dieu, et en vient à avoir l'espérance de rencontrer le Seigneur à la fin de cette vie. Une telle vie n'est pas faite par la force, mais devient un chemin de foi suivant le Seigneur avec un cœur qui essaie de servir le dessein de Dieu dans la foi qui croit en la parole évangélique, de l'eau et de l'esprit de Dieu. Paul redéfinit l'essence du verbe « connaître ». Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. La transition fondamentale ici est de savoir qui est le sujet qui connaît. Le problème n'est pas de savoir si je connais Dieu, mais si Dieu me connaît. Ce changement ne se produit qu'à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par le baptême que Jésus a reçu de Jean, le péché du monde est transféré sur le corps de Jésus, le jugement de ce péché est accompli sur la croix, et lorsqu'on devient un enfant de Dieu par la foi croyante, c'est alors seulement que le croyant devient celui qui reçoit le Saint-Esprit comme un don. Qu'il s'agisse de manger ou de toute autre chose, n'est-il pas juste d'agir pour le bénéfice des frères et sœurs ? Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Selon l'enseignement de la Bible, qu'il s'agisse de manger ou de n'importe quelle action, agir en considérant le bénéfice des frères et sœurs est la chose juste. La foi ne consiste pas simplement à vivre en se basant uniquement sur la liberté personnelle, mais elle doit être vécue comme une vie qui prend également en considération la foi et le bénéfice spirituel des autres. L'apôtre Paul explique clairement ce principe dans 1 Épître aux Corinthiens 10. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 24. Cette parole signifie qu'une personne de foi n'est pas quelqu'un qui insiste uniquement sur ses propres droits ou sur sa liberté de foi, mais qu'elle doit vivre en utilisant sa foi dans une direction qui est utile aux autres. À cette époque, au sein de l'Église, il y avait une controverse sur la question de la nourriture offerte aux idoles. Certaines personnes pensaient que, puisque les idoles ne sont rien, on est libre de manger une telle nourriture. Cependant, Paul ne considérait pas cette question simplement comme une affaire de connaissance ou de liberté. Il considérait qu'il était plus important de savoir si une certaine action devenait une pierre d'achoppement pour la foi des autres. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8 verset 13 « C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Cette parole montre que dans la vie d'un croyant, l'amour doit devenir une norme plus importante que la liberté. De plus, Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 31 « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Une vie pour la gloire de Dieu est simultanément liée à une vie qui prend en considération le bénéfice des autres, parce qu'une personne qui aime Dieu en vient naturellement à aimer ses frères et sœurs. Par conséquent, la norme importante dans la vie d'un croyant n'est pas simplement « puis-je le faire ?», mais « est-ce bénéfique pour les autres ?». Même lorsqu'on utilise sa propre liberté, pensez au type d'influence que cela donne à la communauté et l'attitude d'un croyant mature. En fin de compte, même s'il s'agit d'une affaire quotidienne comme manger, une vie qui agit pour le bénéfice des frères et sœurs est une vie qui plaît à Dieu. Une telle attitude de foi est une attitude de foi qui vient de l'amour envers le peuple du Seigneur. Et elle devient la force qui édifie cette communauté de foi et fait grandir la foi des uns et des autres. Paul révèle clairement la réalité de la foi. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. À la suite de cela, il confesse « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ. » Cette confession correspond exactement à la structure de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes choses viennent du Père, le salut a été accompli par le ministère de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. La vérité de cet évangile du salut est témoignée par la foi en nous. Paul ne nie pas le contenu de la connaissance elle-même, mais il traite de la manière dont cette connaissance est utilisée. N'est-il pas juste d'agir avec retenue pour le bien de ceux dont la foi est faible? Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8, versets 7 à 9. Selon l'enseignement de la Bible, agir pour le bien de ceux dont la foi est faible est une chose tout à fait juste, et c'est la caractéristique d'un croyant mature. C'est parce que la foi ne consiste pas simplement à affirmer la liberté de sa propre foi, mais qu'elle est profondément liée à la considération de la foi qui prend en compte la foi et l'état spirituel des autres. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Cette parole signifie que plus la foi d'une personne est mature, au lieu de faire passer ses propres droits ou son confort en premier, elle a pour rôle d'aider et d'édifier ceux dont la foi est faible. Également dans Romains 14, Paul explique un principe important en prenant comme exemple une question comme la nourriture. Certaines personnes, ayant une foi forte, pensent qu'elles peuvent manger librement n'importe quelle nourriture. Mais une personne ayant une foi faible pourrait se sentir mal à l'aise dans son cœur ou tomber dans la tentation à cause de cela. À ce moment-là, plutôt que d'affirmer simplement « j'ai la liberté », Paul enseigne que restreindre cette liberté pour le bien d'un frère est la voie de l'amour. Le même principe apparaît également dans 1 Épître aux Corinthiens 8. Paul dit que la connaissance peut enfler, mais que l'amour édifie, et explique que si une certaine action devient une pierre d'achoppement pour la foi des autres, un cœur disposé à renoncer à cette action est nécessaire. Il dit qu'il vaut mieux renoncer à ses propres droits que de faire trébucher un frère. Cette attitude apparaît également dans la vie de Jésus. Plutôt que de revendiquer ses propres droits, Jésus a vécu une vie consistant à prendre soin des personnes faibles, ayant peu de foi, et à édifier leur foi. Par conséquent, la Bible enseigne que la maturité de la foi ne se juge pas par la simple abondance ou le manque de connaissances, mais qu'elle se manifeste à travers la considération de la foi et une vie de foi. En fin de compte, agir pour le bien de ceux dont la foi est faible est une action d'amour qui édifie la communauté, allant au-delà de la simple considération de la foi. Une personne ayant une foi forte devient quelqu'un qui a la responsabilité d'aider ceux qui ont une foi faible à ne pas tomber, plutôt que de revendiquer uniquement sa propre liberté. Par conséquent, la juste attitude de foi dont parle la Bible est claire. Agir pour ceux dont la foi est faible, et les édifier est une vie de foi qui plaît à Dieu, et c'est un principe de foi important qui rend la communauté saine. Paul tourne ses regards vers la réalité pastorale. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Certains croyants ont encore des habitudes de leur culte passé des idoles, de sorte que lorsqu'ils mangent le sacrifice, ils ressentent même de la culpabilité comme si l'idole était réelle. Ainsi Paul avertit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. L'évangile de l'eau et de l'esprit proclame la liberté, mais il ne place jamais cette liberté au-dessus de l'amour. » Ne serait-il pas juste de rejeter l'acte de faire trébucher un frère? Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 10 à 11. L'exhortation à rejeter la connaissance qui fait trébucher un frère est profondément liée au principe de foi enseigné par la Bible. Ce qui est important dans la vie de foi, ce n'est pas simplement ce que l'on sait, mais le type d'influence que cette connaissance de la foi a sur les autres. L'apôtre Paul, traitant de cette question dans 1 Épître aux Corinthiens 8, dit « La connaissance enfle, mais la charité édifie ». 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8, verset 1. À cette époque, certaines personnes avaient la connaissance de la foi selon laquelle une idole n'est rien, elles pensaient donc qu'il n'y avait aucun problème à manger de la nourriture offerte aux idoles. Cependant, Paul ne jugeait pas simplement en fonction de la justesse ou de la fausseté de la connaissance. Il considérait qu'il était plus important de savoir comment cette action influençait un frère dont la foi était faible. Pour certaines personnes, cette nourriture pourrait ne poser aucun problème. Mais pour une personne ayant une foi faible, cela peut devenir une cause de confusion dans la foi ou de chute. Par conséquent, Paul a dit que ce n'est pas parce que l'on a la connaissance que mettre directement cette connaissance en pratique est toujours juste. Il dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8 verset 13 « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Cette parole montre que l'amour qui protège la foi d'un frère est plus important que d'affirmer sa propre connaissance de la foi ou sa liberté. Ici, l'expression « rejeter la connaissance » ne signifie pas abandonner la vérité, mais elle signifie rejeter l'attitude consistant à se vanter de sa connaissance ou à faire trébucher un frère sur la base de celle-ci. La connaissance est nécessaire à la foi, mais si cette connaissance est utilisée sans l'amour venant de l'intérieur de la foi, elle peut plutôt faire trébucher les gens au lieu de les édifier. La Bible enseigne que le centre de la foi n'est pas la simple connaissance de la foi, mais une vie de foi qui édifie la communauté par la foi. Par conséquent, un croyant doit penser au type d'influence que cela aura sur la foi des autres, même lorsqu'il utilise sa propre liberté ou sa propre connaissance. En fin de compte, l'expression « rejeter la connaissance qui fait trébucher un frère » est une exhortation à donner la priorité à l'amour qui vient de la foi. La maturité de la foi ne se manifeste pas par ce que l'on sait, mais elle se manifeste par l'amour de la foi qui peut restreindre ses propres droits et sa liberté pour édifier la foi des autres. Paul présente une situation spécifique. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, le résultat est grave. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Ici, périr ne signifie pas l'annulation du salut, mais signifie la destruction de la foi et l'effondrement de la conscience. Et Paul ajoute une phrase décisive. Il dit de ne pas rendre vain son ministère, dans lequel Jésus a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et est devenu notre sauveur en recevant le jugement du péché sur la croix. Blesser la conscience de la foi d'un frère, n'est-ce pas pécher contre Christ? En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8, verset 12. Selon l'enseignement de la Bible, on peut dire que blesser la conscience de la foi d'un frère, c'est pécher contre Christ. L'apôtre Paul explique clairement ce fait dans 1 Épître aux Corinthiens 8. Dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8, verset 12, Paul dit ceci « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Cette parole montre le fait que la relation entre les croyants n'est pas une simple relation humaine, mais une relation formée en Christ. À cette époque, dans l'église de Corinthe, il y avait un conflit sur la question de manger de la nourriture offerte aux idoles. certaines personnes pensaient que, puisqu'une idole n'est rien, manger une telle nourriture n'était pas un problème. Cependant, pour ceux dont la foi était faible, cette action pouvait causer une grande confusion dans la foi. Par conséquent, Paul a enseigné que ce n'est pas parce que l'on a la connaissance que l'on doit utiliser sa liberté comme on l'entend, mais que l'on doit prendre en considération la conscience et la foi du frère. La raison pour laquelle Paul a dit cela est que les saints au sein de l'Église forment le corps de Christ. Blesser un frère, ce n'est pas simplement blesser un individu, mais blesser une personne qui appartient à Christ. Par conséquent, Paul a expliqué qu'une action qui fait trébucher un frère revient en fin de compte à pécher contre Christ. De plus, cet enseignement montre un principe de foi important. Dans la vie de foi, non seulement la question « puis-je le faire ?» est importante, mais la question « quel type d'influence cela a-t-il sur la foi du frère ?» est également importante. C'est parce que l'amour qui protège la foi d'une autre personne est plus important que d'affirmer sa propre liberté ou sa propre connaissance. Par conséquent, Paul a dit que s'il y a une action qui fait trébucher un frère, il renoncerait volontiers à sa liberté. Ce n'est pas une attitude consistant à se restreindre de force, mais un choix venant de l'amour. En fin de compte, le principe dont parle la Bible est clair. Les personnes qui croient en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit forment une seule communauté reliée les unes aux autres par la foi, et l'action d'une personne peut influencer la foi d'une autre personne. Par conséquent, une action qui blesse la conscience d'un frère ou détruit sa foi n'est pas un simple problème personnel, mais devient également un problème important dans la relation de foi avec Jésus-Christ. Par conséquent, dans la vie de foi, faire passer l'amour de la foi avant la connaissance et agir dans la direction de la foi qui édifie la foi du frère est la voie qui plaît à Dieu. Paul révèle l'essence du problème. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils sont des membres sauvés du péché en croyant en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, et un temple où demeure le Saint-Esprit. La liberté qui détruit un frère, c'est aussi commettre un péché. Conclusion, n'y a-t-il pas une raison de choisir le bénéfice du frère? C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8, verset 13. Selon l'enseignement de la Bible, il y a une raison claire pour laquelle une personne qui croit en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit doit choisir le bénéfice du frère. C'est parce que la foi n'est pas simplement une vie individuelle, mais la vie d'une communauté dont les membres sont liés les uns aux autres en Christ. Premièrement, c'est parce que les saints sont une communauté qui forme le corps de Christ. La Bible compare l'Église au corps de Christ. Comme les membres d'un seul corps, les saints sont liés les uns aux autres. Par conséquent, l'action d'une personne peut influencer une autre personne. Prendre en considération le bénéfice du frère n'est pas une simple considération, mais l'œuvre d'édification du corps tout entier. Deuxièmement, c'est parce que l'amour de la foi venant de la foi est le principe de foi qui édifie les membres. Jésus a dit que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain est le plus grand commandement. Choisir le bénéfice du frère par la foi est exactement l'apparence de la pratique de cet amour dans la vie réelle. L'attitude consistant à penser d'abord au bénéfice d'une autre personne plutôt qu'à sa propre liberté ou à son propre profit est une vie qui manifeste l'amour de Christ. Troisièmement, c'est pour protéger la foi croyante du frère. Parmi les saints, il y a des personnes dont la foi est forte et il y a aussi des personnes qui sont encore faibles. Une certaine action pourrait ne pas être un problème pour moi, mais elle peut devenir une pierre d'achoppement pour la foi d'une autre personne. Par conséquent, la Bible enseigne que plutôt que de revendiquer ses propres droits, il est important d'être prévenant afin que la foi du frère ne tombe pas. Quatrièmement, c'est parce que c'est une vie qui suit le cœur de Christ. Jésus n'a pas cherché ses propres droits ou sa propre gloire en premier, mais il s'est abaissé pour sauver les gens du péché. Les saints menant une vie qui choisit le bénéfice du frère, c'est l'apparence d'une vie qui suit le cœur de Christ. Cinquièmement, c'est pour le bénéfice de la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque la vie des saints se présente sous l'apparence de la considération mutuelle et de l'amour par la foi, la communauté devient plus saine et l'évangile de l'eau et de l'esprit est également révélé de manière plus belle. À l'inverse, si l'on ne poursuit que son propre profit, la communauté est divisée et l'influence de l'évangile de l'eau et de l'esprit peut également être affaiblie. En fin de compte, La raison pour laquelle une personne croyante choisit le bénéfice du frère n'est pas une simple raison morale, mais c'est en raison de la vie de la communauté unie en Jésus-Christ et du principe de l'amour de la foi. Cette attitude édifie l'Église, fait grandir la foi des uns et des autres, et accomplit une vie qui s'aligne sur la volonté de Dieu. Paul conclut ce chapitre par une conclusion puissante. « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Ce n'est pas la voie de la loi. C'est un choix volontaire découlant de la foi qui croit en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas pour obtenir le salut du péché, ni pour observer des règles, mais pour préserver la vie de la foi du frère. Parce que l'on possède déjà toute liberté par l'évangile de l'eau et de l'esprit, on peut plutôt renoncer volontiers et joyeusement à cette liberté de foi. Première épître aux Corinthiens 8 nous demande aujourd'hui: votre justesse sauve-t-elle la foi du frère ou prouve-t-elle simplement votre liberté de foi? Un sermon de Paul C. Young, première épître aux Corinthiens chapitre 8. Bien-aimés saints, aujourd'hui à travers la parole de première épître aux Corinthiens 8, nous aimerions examiner comment nous devrions utiliser la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'amour de Christ et la véritable liberté de la foi. Cette parole ne traite pas simplement de la question des sacrifices offerts aux idoles, mais c'est une parole qui montre clairement avec quelle attitude de foi une personne qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit doit vivre. Paul parle d'abord ainsi: « Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Cette parole apporte de très nombreuses leçons. La foi exige de la connaissance, mais si cette connaissance est mal utilisée, elle rend cette personne arrogante. Au sein de l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la connaissance qu'une idole n'est rien. La connaissance elle-même qu'ils avaient n'est pas une parole fausse. En réalité, une idole n'a rien à faire valoir devant Dieu. Dieu n'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, qui sont devenus la Sainte Trinité. Cependant, bien qu'ils aient reçu le salut par la foi qui croit en Jésus-Christ, avec cette connaissance, en ce qui concerne la question des idoles, ils ne prenaient pas les autres en considération. C'était là le problème. Bien-aimés, vous devez savoir le fait qu'une personne qui a cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui a été sauvée du péché peut aussi tomber dans l'arrogance. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle. Il a dit que la connaissance enfle, mais que l'amour édifie une personne. Dans la parole suivante, Paul dit: quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est de souillée. C'est-à-dire que même une action identique ne pose aucun problème pour certaines personnes, mais pour d'autres, elle peut devenir une chose qui détruit la foi. Ce qui est important ici, ce n'est pas l'action elle-même, mais l'influence que cette action donne à la foi d'une autre personne. Une personne qui connaît l'Évangile a la liberté de la foi. Cependant, elle n'utilise pas cette liberté de foi uniquement pour son propre bénéfice. Pourquoi en est-il ainsi? Une personne qui connaît l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a reçu le salut en croyant que son salut était entièrement dû au fait que Jésus a reçu le baptême de Jean, que les péchés du monde ont été transférés sur lui, qu'il a reçu le jugement du péché sur la croix et qu'il est ressuscité de la mort, devenant ainsi notre Sauveur. À cause de cela, nous ne sommes plus ceux qui sont sous la malédiction de la loi, mais ceux qui ont été délivrés de tous les péchés. Cependant, Paul avertit ainsi: « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » C'est le principe de la vie de foi dans l'Évangile. Cela ne signifie pas qu'un croyant peut vivre comme il le souhaite, mais plutôt, en tant que personne ayant la foi qui peut délivrer d'autres personnes du péché, cela s'accompagne d'une responsabilité plus profonde. Paul parle plus fortement: si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est une expression extrême, mais cela devient aussi une parole montrant qu'il considère les autres âmes comme étant si précieuses. Bien-aimé saint, une personne qui connaît et croit en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit a besoin d'une vie de foi qui doit faire preuve de retenue pour ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Elle doit considérer le salut des âmes des autres comme étant plus important que de revendiquer ses propres droits de foi, parce qu'elle sait qu'elle aussi fait partie de ceux qui ont été sauvés du péché par la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu. Ici, nous devons clarifier une chose: ce n'est pas une parole pour retourner à nouveau à la loi. Ce n'est pas une question de « puis-je faire ceci ou ne le puis-je pas ?» Nous sommes déjà ceux qui ont obtenu le salut par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, lorsque cette liberté de foi est utilisée comme une complaisance envers soi-même, elle entraîne la perte de l'âme du prochain. Une personne qui ne connaît pas la parole évangélique de l'eau et de l'esprit essaie de se couvrir de ses propres bonnes actions. Par conséquent, elle juge la foi d'une personne croyante à travers ce qu'elle mange et ce qu'elle ne fait pas. Cependant, une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit est différente. En tant que personne qui a déjà été sauvée de tous les péchés, elle est une personne qui a la foi qui peut se restreindre pour édifier d'autres personnes. En fin de compte, le cœur de 1 Épître aux Corinthiens 8 est ceci. Si la connaissance d'une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne se manifeste pas par l'amour, elle ne peut pas apporter de véritables bénéfices aux autres. Bien-aimé, votre vie de foi reste-t-elle peut-être uniquement dans la connaissance ? Jugez-vous d'autres personnes ou vous élevez-vous par le fait que vous connaissez l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Si c'est le cas, vous devez retourner à nouveau au Seigneur. Quel ministère Jésus a-t-il accompli pour nous ? Parce qu'il a eu les péchés du monde transférés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean pour nos péchés, qu'il a reçu le jugement du péché sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité de la mort, nous avons pu être sauvés par la foi. Une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit est une personne qui mène une vie consistant à sauver les âmes d'autres personnes et à édifier leur foi en propageant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, notre norme de foi doit être claire. Ce n'est pas « est-ce possible ?» mais « cela sauve-t-il l'âme d'une autre personne ?» Cela devient la ligne directrice de la foi selon laquelle nous devons vivre dans la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Je prie au nom du Seigneur que cet évangile s'enracine profondément dans vos cœurs, afin qu'une connaissance abondante conduise à l'amour et que cet amour se manifeste comme une vie qui édifie la foi d'autres personnes.